Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
En hiver, il fait bien plus doux en Bretagne qu'en Alsace et nous trouvons cela normal. La Bretagne, elle, est proche de la mer. L'océan, c'est la machine du climat d'une terre habitable. L'océan capte la lumière du soleil pour la transformer en chaleur et la répartit ensuite à l'ensemble du globe. Sabrina Spech, enseignante-chercheure au laboratoire de physique des océans de l'Université de Brest et spécialiste des courants marins.
L'océan, c'est lui qui reçoit l'énergie du soleil et c'est lui qui la transforme, donc c'est de la lumière, qui la transforme en chaleur, quelque chose qu'on ne voit pas. Et l'atmosphère, elle est invisible à la lumière du soleil, elle ne se réchauffe pas avec la lumière du soleil et donc c'est l'océan qui réchauffe l'atmosphère. Donc les températures en général sont plus hautes près de l'océan et ils diminuent en allant en haut de l'atmosphère, là où il y a tous les phénomènes météorologiques. Et donc c'est l'océan qui transfère l'énergie pour toute, et l'eau d'ailleurs, pour qu'on aille tous les événements météorologiques que l'on observe.
Si l'océan ne jouait plus son rôle de régulateur du climat, nous aurions déjà connu un réchauffement climatique très élevé. Sabrina Spech.
Aujourd'hui, on aurait déjà, juste à cause du changement climatique, on aurait déjà 18 degrés Celsius en plus en moyenne sur notre Terre. Mais on aurait des températures beaucoup plus importantes dans les tropiques et beaucoup plus froides au niveau des pôles parce que l'océan, en plus de transférer de la chaleur, de l'énergie à l'atmosphère, il transporte la chaleur des tropiques vers les pôles en cherchant de diminuer les différences entre les régions qui voient beaucoup plus de lumière pendant la journée par rapport à des régions polaires où la lumière est moins efficace.
L'océan, réservoir de chaleur et pompe à CO2, or n'a de cesse de nous alerter la communauté scientifique. Nous voici rendus dans la situation d'un paquebot qui fait route en sens inverse et n'a pas les instruments pour faire demi-tour. Comment fonctionne l'océan profond? Nous sommes seulement en train de le découvrir. Pierre-Marie Saradin, responsable de l'unité de recherche, étude des écosystèmes profonds au centre Ifremer de Bretagne.
On commence à décrire des écosystèmes, on commence à essayer de comprendre comment ils fonctionnent, on essaye de comprendre les liens entre chaque écosystème et on essaye de plus en plus de comprendre le lien, la position de ces écosystèmes dans l'océan global. Donc on connaît peu de choses, mais on commence quand même à connaître.
Les missions scientifiques complexes se multiplient pour établir un état des lieux précis à la fois des océans et de leurs atteintes. Tara Méditerranée est justement en mission pour faire l'état des lieux de la plastisphère de la Méditerranée. Les difficiles missions en Antarctique découvrent les mécanismes des courants marins, mais là où cela bloque, c'est dans la prise en compte de l'océan dans les instances décisionnaires. Pas facile de faire entrer l'océan dans les agora, jusque et y compris sur le climat. Andrea Brodé-Almeida, chargée de mission de Tara Expédition.
Comment faire avancer la gouvernance internationale pour un océan en bonne santé? Donc régulation de transport maritime, donc gouvernance de la haute mer, objectif de mettre en place des aires marines protégées, régulation des enjeux de pollution, de plastique en mer, donc tout ça, évidemment, ça semble un peu déconnecté de notre réalité dans les salles de Bruxelles ou de l'ONU à New York, mais ça nous touche directement et donc Tara suit les enjeux de l'ONU, notamment la gouvernance de la haute mer, puisque ça concerne 70% de la surface de l'océan. Et donc c'est un enjeu de gérer la moitié de la planète, tout simplement.
La COP15 sur le climat n'a à ce jour pas prévu l'océan. Quant à l'Europe, eh bien, elle n'a pas d'ambition environnementale, déplore Andrea Brodé-Almeida. En France, c'est du côté du CESE que l'on pousse à une prise en compte et que se plaide une urgente gouvernance de la haute mer. Catherine Chabot.
Moi, je suis entrée au CESE, donc au Conseil économique, social et environnemental, avec la nouvelle mandature, donc depuis 3 ans, avec l'ambition qu'on s'intéresse aux océans, parce que personne ne portait vraiment cette casquette-là. Donc avec Patricia Ricard, on est là un peu toutes les deux, et puis avec d'autres, à essayer de porter un peu haut et fort la voix des océans, et surtout qu'on n'oublie pas de parler des océans quand on parle au climat, quand on parle adaptation au changement climatique, quand on parle biodiversité, etc. Souvent, les gens oublient que ça concerne directement les océans.
L'océan nous est vital. Il a de surcroît cette formidable capacité de résilience. François Sarano, docteur en océanologie.
Il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'arrêter d'agresser. Chaque fois, je dis bien chaque fois, que nous avons décidé de préserver, la vie est revenue riche en abondance et en espèces. C'est-à-dire que l'océan est solide. Si nous arrêtons de l'agresser, il nous gratifie de toute sa richesse et de son exubérance. Cela vaut la peine de se battre pour la préservation de la vie dans les océans, parce qu'on gagne à tous les coups.
Mais pourquoi donc, alors, cet étrange comportement au regard de l'océan, Patricia Ricard?
La recherche spatiale a été longtemps très chère, et c'était juste pour, au début, c'était vraiment, c'était un rêve de l'humanité, enfin, ou de certains hommes, marcher sur la Lune. On n'a jamais eu le rêve, ou très peu, de marcher au fond de la mer. Mais si on arrivait aujourd'hui à mettre la même constance, les mêmes financements, et le même intérêt passionnel et universel pour cette recherche, je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas aussi pour l'humanité au fond des océans. Aujourd'hui, les règles de la recherche, c'est essentiellement la coopération. C'est peut-être tentant de traverser la mer tout seul, mais on ne pourra la connaître qu'à plusieurs. Ça demande beaucoup de moyens à la mer, ça demande du temps, de la constance. Je pense que vraiment, la mer est peut-être l'occasion unique de travailler ensemble, quelle que soit toute nation, tout intérêt. La difficulté de mieux connaître l'immensité et l'intérêt extraordinaire des océans, ça sera peut-être une opportunité de nous unir malgré nous autour d'un projet commun.
Le paquebot de l'humanité évoque la galère des instances un peu lentes à prendre en compte l'océan. Le tout est de choisir, nous dit François Sarano, entre une planète peuplée d'espadons, de requins, de thons, mais aussi d'êtres humains, et une planète peuplée de vers, de crabes et de méduses.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.